Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popo Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Accent d'Europe, Laurent Berthou.
BMW ou en Audi A3. Et quand je veux skier, je monte à Verbier ou Grand Montana. Je suis le parisien de la Suisse, un vrai narcisse, je ne vois que moi. J'aime pas les frouzes et tous ces péousses de Vaudois.
Bonjour à tous. Un certain racisme anti-français commence à s'exprimer ouvertement dans les zones frontalières suisses. Les 100 000 Français qui traversent chaque jour la frontière pour aller travailler à Genève sont de plus en plus mal vus. Des frontaliers attirés par des salaires 2 à 3 fois supérieurs aux salaires français et qui sont de plus en plus souvent dans le viseur des partis populistes. Plusieurs partis qui militent pour instaurer la préférence nationale à l'embauche. Des discours et des campagnes politiques qui créent des tensions certaines. Frontalier persona non grata, c'est un reportage de Katia Michel.
Infotrafic RTS.
Des bouchons et des ralentissements sont signalés sur le contournement de Genève entre Mérin et le tunnel de Vernier, ainsi qu'entre Perly et Bardonnay en direction de la France.
Chaque matin, chaque soir, c'est le même scénario. Des embouteillages interminables à la frontière en direction ou en provenance de Genève. Un trafic chargé, des difficultés de stationnement. Ajoutons à cela un taux de chômage plus élevé à Genève que dans les autres cantons. Et pour de nombreux résidents, c'en est trop. Le responsable de tous ces maux ne peut être que le travailleur frontalier.
Il y a trop frontaliers ici qui sont profiteurs, qui gagnent son salaire à Genève et dépensent l'argent en France parce qu'ils ne payent pas ici des impôts, ils seulement bénéficient ici. C'est ça qui le fâche, nous, les Genevois.
Il y a trop. Je suis infirmière et je ne trouve pas de boulot tout le temps, mais ils sont là. Toujours, ils prennent la frontière parce que je crois qu'ils payent moins.
Je sais que sur mon lieu de travail, il y a quand même pas mal d'animosité envers les frontaliers que les gens appellent les frouzes. Et dès que quelqu'un est embauché, dès que quelqu'un nouveau arrive, la première chose que les gens veulent savoir, il vient d'où ? De France ou de Suisse ?
Ça peut être une concurrence déloyale, en effet.
Ils sont là pour polluer Genève.
Si la parole est si décomplexée, c'est parce que le thème des frontaliers est allègrement exploité par les partis populistes ces dernières années. Le MCG, le mouvement citoyen Genevois, en a d'ailleurs fait son principal cheval de bataille. Le parti n'hésite pas à placarder des affiches au slogan « Sans détour ». Stop à l'invasion des Français. Les frontaliers, nos pires ennemis. Le parti a récemment déposé un projet de loi, les nôtres d'abord, visant à accorder la préférence aux résidents en matière d'emploi. Une directive déjà en vigueur dans l'administration publique. Mais François Berchy, le secrétaire général du MCG, se défend de vouloir faire la chasse aux frontaliers.
Nous sommes habitués à ce genre d'attaque. En fait, le MCG répond à une préoccupation des habitants du canton de Genève se retrouve dans une situation de concurrence déloyale face à une main-d'œuvre frontalière. C'est une réalité, il y a une tension sur le marché du travail, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a un dumping salarial de la part des frontaliers, il y a aussi une utilisation par certains employeurs privés des frontaliers qui n'est pas acceptable. Il est certain que les frontaliers auront toujours leur place à Genève, mais il y a une priorité pour les résidents genevois qui doit être là et qui doit s'inscrire de manière très claire, de manière beaucoup plus claire qu'elle ne l'est actuellement.
Marie Maurice, journaliste française installée en Suisse, a mené un fastidieux travail d'enquête sur le malaise des Français. Son enquête a donné lieu à la publication d'un ouvrage, Bienvenue au paradis, un recueil de témoignages parlants.
Il y a toutes sortes d'anecdotes vécues par les Français qui vivent ici ou qui sont frontaliers. Donc les Français sont accusés d'être toujours en retard, ce sont des flemmards. Ils ont la réputation d'avoir une hygiène un peu vacillante. Ils conduisent très très mal, ils sont très carriéristes, très ambitieux. Ça c'est pour les réflexions. Après il y a les faits, donc il y a aussi des attaques physiques, par exemple des pneus crevés, des voitures abîmées aux personnes qui ont des plaques d'immatriculation françaises. Ça c'est quelque chose de très fréquent. Et puis il y a aussi toute la discrimination sur le marché du travail et du logement. Certains chefs d'entreprise ont décidé de ne plus engager de Français parce que ça crée des mauvaises ambiances dans les équipes. Et puis, du coup, ces Français sont accusés d'être râleurs et flemmards et syndicalistes, et etc. Donc, certains patrons préfèrent ne pas les engager et certains propriétaires disent ouvertement qu'ils ne souhaitent pas de locataires français chez eux.
Mais dénoncer certaines discriminations à l'égard des Français est encore un sujet tabou. Le livre a fait scandale au point que Marie Maurice a dû faire face à des menaces physiques.
Oui, j'ai reçu des menaces de gens qui me disaient « si tu pars pas d'ici, tu vas comprendre ta douleur ». Évidemment, personne m'a jamais giflé, même si à un moment j'ai eu un petit peu peur, j'ai rasé les murs. Mais c'est vrai que ça a été assez difficile à vivre pour moi. Et en même temps, ça prouvait de fait que ce que je disais dans le livre était en bonne partie vrai et qu'il y a un problème, un gros malaise qui s'est accentué entre les Suisses et les Français depuis une dizaine d'années. Pour moi, évidemment, le mouvement de malaise entre les Suisses et les Français a été instrumentalisé par le pouvoir politique. Et pour moi, ça vient aussi du fait que le premier parti du pays, l'UDC, l'Union démocratique du centre, a quand même un discours xénophobe assez fort, et là aussi très banalisé, très assumé, qui fait que les gens ne se choquent pas d'entendre des propos ouvertement racistes. Mais c'est sûr que pour moi, c'est un domaine où la Suisse a vraiment des gros progrès à faire.
En 2011, ces tensions avec les Français ont conduit au drame. Le meurtre d'un frontalier cadre des transports publics genevois par l'un de ses salariés. Le tribunal n'a pas retenu le mobile xénophobe, même si le meurtrier était connu pour ses propos haineux envers les frontaliers. Plusieurs collègues du meurtrier ont d'ailleurs salué son geste. Un acte heureusement isolé, mais qui démontre le profond malaise entre les deux voisins.
Je commence le livre par la fin, et j'ai le montre au pour rien.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors ils ont moins de 30 ans et ont déjà bien réussi chacun à leur manière. 30 jeunes Européens distingués par le magazine Forbes qui pour la seconde année consécutive dresse une liste des jeunes à suivre cette année. Alors, qui trouve-t-on, Eve ?
En réalité, ils ne sont pas 30, mais plutôt 340, identifiés dans une dizaine de secteurs, les arts, les médias, mais aussi les nouvelles technologies, la science, la politique, le sport. Le magazine économique insiste beaucoup sur la net économie, d'ailleurs pourvoyeuse de jeunes entrepreneurs. L'intérêt de ce genre de classement, ce n'est pas tellement de distribuer les bons points, mais plutôt de donner un coup de pouce à la carrière de ces jeunes, et notamment d'attirer le regard des investisseurs. Cette année, la moisson est plutôt bonne. Côté français, ils sont 26 à avoir été retenu contre 23 l'année passée. Cela représente en tout 8% des jeunes à suivre en Europe, selon la publication. La parité est respectée côté français, mais à l'échelle européenne, les hommes sont encore un peu surreprésentés, 64% des retenus pour une moyenne d'âge de 25 ans.
Alors, qui sont ces célèbres français qui ont tapé dans l'œil du magazine américain ?
On retrouve la jeune chanteuse Héloïse Letissier, 28 ans, plus connue sous son nom de scène, Christine and the Queens, qui décidément fascine à l'étranger, puisqu'après avoir fait la couverture d'un autre magazine américain, le Time, elle vient de s'offrir une nomination aux prestigieux Brit Awards, les victoires de la musique au Royaume-Uni. On retrouve également la boxeuse Estelle Mosley, 24 ans, médaille d'or à Rio. Mais là où les jeunes françaises sont le plus nombreux, c'est dans la rubrique entrepreneuriat social.
Entrepreneuriat social ?
Alors l'entrepreneuriat social, c'est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. C'est-à-dire que pour ces jeunes, chefs d'entreprise, donc le profit est plus le moyen qu'une fin en soi. Dans cette catégorie, plusieurs Français sont distingués. Vous avez peut-être entendu parler de SINGA, S-I-N-G-A, une ONG qui met en relation des réfugiés et des particuliers. Eh bien cette ONG, on la doit à Guillaume Capel, un jeune Français de 29 ans. Ont aussi été retenus Soazic Barthélémy, 27 ans, qui a créé une entreprise de soutien aux femmes entrepreneurs à travers le monde, ou encore Joséphine Goub, CEO, comme on dit, hein, c'est-à-dire présidente directrice générale de TechFugees, déjà repérée l'an dernier, Guillaume Fourdinier et Gonzague Gru, cofondateurs d'Agricool, et Benjamin Dupéy, fondateur de Centiméo, qui propose de collecter les centimes d'euros qui s'entassent dans nos poches et dont nous ne savons pas toujours quoi faire, une sorte d'opération pièce jaune au XXIe siècle.
Alors les Français sont absents dans deux catégories, médias et arts. On ne peut pas être bon partout.
On retiendra par contre le jeune chef espagnol qui monte, David Andrés, ou encore la créatrice de bijoux italienne Beatrice Bongiasca, 26 ans, et l'artiste Luisa Gagliardi qui vient de Suisse et que le magazine surnomme la Dali du digital. Dans la catégorie médias, plusieurs correspondants de grandes publications ou diffuseurs ont été retenus, comme la britannique Shaya Siyal, 25 ans, qui a couvert le Brexit pour la BBC, ou encore l'allemand Klaas Relotius qui a effectué plusieurs reportages en Irak pour le très sérieux hebdomadaire allemand Der Spiegel.
Et cette année, qui est le Benjamin ou la Benjamine de cette sélection ?
Alors à 17 ans, le jeune espagnol encore mineur Alex Sicard Ramos fait partie des personnalités retenues par Forbes. Il faut dire que le jeune homme n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a créé sa première plateforme en ligne à destination de ses camarades étudiants à 13 ans. Autre phénomène, Luca Todesco, 19 ans, italien, considéré comme l'un des plus grands hackers de sa génération. Il vient tout juste d'être enrôlé par le géant Apple pour renforcer la sécurité de ses célèbres téléphones portables.
Merci Evmino, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est une grande première en Bosnie. Un Rom a été élu président d'un conseil municipal aux côtés du maire dans la ville de Zavidovici, municipalité d'un peu moins de 40 000 habitants à une centaine de kilomètres de Sarajevo. L'élu est issu de la communauté la plus vulnérable du pays, écrasée par la pauvreté et lourdement discriminée dans l'accès à l'éducation et à l'emploi. Alors est-ce que cette élection est le signe que les mentalités évoluent ? Pas sûr. Deux mois après sa prise de fonction, son élection continue à susciter des tensions. Le reportage de Mercia Nezic.
La première séance du conseil municipal présidée par Edjo Seferovic lui a déjà valu des sarcasmes. Quelques hésitations suffisent pour susciter des moqueries. Des élus les ont mises en ligne sur YouTube pour dénigrer leurs collègues roms. Il en a été blessé, mais pas surpris.
Nous, les Roms, on est habitués à vivre avec ça, à être insultés, humiliés, dénigrés, à être pris à partie par des gens dans la rue qui crient « El Zigan ».
Le mot « Zigan » est utilisé dans le langage courant en bosnien, serbe ou croate comme un qualificatif insultant. C'est dire l'ampleur de la stigmatisation subie par cette communauté dans les Balkans. D'ailleurs, depuis son élection, Radjo Seferovic est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Des publications inappropriées signées de son nom circulent.
J'ai dû expliquer à tout le monde que je ne suis pas à l'origine des inscriptions sur ma page Facebook, qu'elle a été hackée. J'étais insulté, ma mère Zigan a été insultée, mes enfants ont été menacés, moi aussi d'ailleurs. Les gens disent qu'on n'a pas besoin d'un Zigan comme président du conseil municipal. Et puis il y a des collègues, des habitants de la ville mécontents de me voir occuper cette fonction.
Les 750 Roms établis ici vivent entre eux dans trois quartiers bien à l'écart de la ville. Le seul Rom de Zavidovic à avoir un emploi est le nouvel élu et les pompiers professionnels. Les autres survivent en ramassant de la ferraille pour la revendre. Ils font les frais d'une lourde stigmatisation, estime Radjo Seferovic.
Peu de gens fréquentent ici les Roms. Personne ne les emploie. Le patron d'une simple station de lavage de voitures ne veut pas employer de Roms. Il a peur d'être volé ou d'avoir des problèmes. Et moi, je vous le demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cas d'un Rom qui aurait commis des crimes contre l'humanité pendant la guerre, qui aurait tué ou violé ? Et non, ça ne s'est jamais produit.
Seules quelques dizaines d'enfants roms de la ville vont à l'école et très peu au-delà du collège. En Bosnie, 2 élèves roms sur 10 accèdent au lycée. Les parents Zavidovici souhaitent que le nouvel élu les aide à faire scolariser leurs enfants. Hassan espère beaucoup de cette élection.
Il est bien, Reggio. C'est le seul qui est bien au conseil municipal. Il est bien avec tout le monde. Lui ne regarde pas les gens en fonction de la communauté dont ils sont issus. Je suis sûr qu'il va aider tout le monde, mais d'abord, et c'est normal, les Roms.
Pour ce faire, en plus d'un conseil municipal parfois hostile, l'élu doit composer avec un maire bosniaque. Particularité du millefeuille administratif bosnien, chaque ville est administrée par un maire et un président de conseil municipal. Alors pourra-t-il réellement peser pour améliorer le sort des Roms de la ville? Il en doute déjà.
Ça va être difficile. Si vous n'avez pas de soutien, si on ne collabore pas avec vous, c'est dur de faire bouger les choses. J'ai peur de ne pas pouvoir faire grand-chose.
Ici, personne ne cache son découragement. Ancien fleuron de l'industrie du meuble yougoslave, la ville ne s'est pas remise de la guerre 20 ans après. 67% de la population est au chômage. Les façades des immeubles sont décrépites. La pauvreté touche tout le monde. L'élection d'un Rom au conseil municipal et les menaces qu'il reçoit laissent froid ce commerçant.
Allez, on est tous discriminés ici. Si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas les moyens de vivre décemment. C'est de la discrimination aussi. Avant la guerre, ici, 12 ou 13 000 personnes travaillaient dans une grande usine de la ville. Maintenant, il n'y a rien. On manque de tout. Et de toute façon, ceux qui peuvent vraiment faire bouger les choses sont les politiques à Sarajevo. Ceux d'ici n'ont aucun pouvoir.
À Sarajevo, justement, peu de choses avancent. La preuve, le pays a été condamné il y a 7 ans déjà par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa constitution discriminatoire. Issue des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en 1995, elle réserve la présidence collégiale du pays aux seuls bosniaques, serbes et croates. Ainsi, un juif ou un rom en sont automatiquement exclus. La constitution n'a toujours pas été modifiée malgré les pressions de la communauté internationale. Le maire bosniaque de la ville se targue, lui, d'être meilleur élève que le gouvernement. Il espère surtout en tirer profit à Asim Mujanović.
La communauté internationale ne parle que de l'application du jugement rendu dans l'affaire Sedić Finci. Nous l'appliquons. Alors maintenant, aidez-nous à résoudre les problèmes de la population rom de Zavidovici grâce à vos fonds. Le nouvel élu pourrait être le coordinateur de ces projets, faire le lien entre les fondations, les organisations internationales et le terrain. Il pourrait s'occuper de l'implantation de ces projets qui nous aideraient à résoudre ces problèmes.
Cette élection d'un président de conseil municipal Rome apparaît surtout comme une opération de communication, un moyen pour le maire de faire parler de la ville et d'attirer des fonds d'aide européens et internationaux. On est encore loin de l'acceptation des Roms.
À la frontière franco-espagnole, la Jonquera est plutôt fréquentée par les touristes étrangers pour ses magasins d'alcool et son tabac moins cher, ainsi que pour ses maisons closes, beaucoup moins pour son musée mémorial de l'exil, ou MUM, un lieu qui perpétue le souvenir de l'exil en 1939 des républicains espagnols et catalans. Martine Pouchard.
C'est le musée du souvenir de la tragédie, documents, archives d'époque, photos, témoignages, c'est une page d'histoire que l'on découvre au musée de la Jonquera. En 1939, Franco et ses troupes remportent la victoire. Les républicains espagnols doivent quitter le pays, un exode qui va les mener en France. Femmes, enfants, vieillards, en guenilles, épuisés, terrorisés, munis de quelques biens, rejoignent la frontière. Les hommes ne sont pas les bienvenus, on les refoule. Le gouvernement français est vite débordé et n'accueille pas ses réfugiés les bras ouverts. L'illustration, le magazine de l'époque, rapporte les faits, parle de la tragédie espagnole. L'exode des Espagnols en France, peut-on lire, a pris de telles proportions qu'il est proprement inimaginable. C'est un peuple qui déferle. La horde, je cite, avance par tous les chemins qui descendent de la montagne. On parle de véritables calamités et le journal de poursuive. Pourtant, dès qu'ils se savent en France, on les sent libérés au moins d'une chose, de l'obsession de la mort. Pourtant, les Français critiquent ces militaires de l'armée
l'armée républicaine, traités d'arrogants car même vaincus, ils gardent la tête haute. Ils sont fouillés, désarmés. Tous ces réfugiés seront dirigés vers des camps, à Argelès-sur-Mer par exemple, ou à Rivesaltes. Beaucoup sont ensuite livrés aux Allemands et internés dans les camps de concentration. Certains ne reviendront pas. On calcule que près de 500 000 personnes ont passé la frontière dès 1939. Plus tard, à cause de la répression durant les 40 années du franquisme, opposants au régime, intellectuels, politiques, ont dû quitter le pays, émigrer, expatriés, exilés, réfugiés, pour des raisons ethniques, religieuses, politiques. Depuis toujours, comme le montrent les témoignages réunis au musée, l'histoire se répète. Les migrations politiques sont une terrible constante dans le destin de l'humanité, plus que jamais. Cette visite nous interpelle sur le destin de ceux qui, aujourd'hui encore, fuient la violence et la guerre.
Françoise Grelot a réalisé et mis en ondes de cette émission. On se retrouve demain dès 12h40, temps universel, pour une nouvelle édition d'Accent d'Europe. Et on se retrouve tout de suite sur RFI.fr à la page émission.
Autour de la question.
on s'est connu le temps de plaire. Aux exigences qu'on s'est créées, mais on s'y perd. Tu n'es qu'à quelques kilomètres. Et nos cœurs sont restés dans cette mer. J'ai couru en longeant la Seine. Espérant te retrouver l'âme sereine, j'ai couru sans savoir comment, ni pourquoi on s'en bat, on ne sait connu qu'un moment, et je ne sais plus si tu en vois la peine.
On est content d'aller voir Cœur de Pirate ?
Mais bien sûr qu'on est content d'aller voir Cœur de
Pirate. Ah bon, c'est parfait alors.
Mais oui, c'est parfait.
On est content d'être à Nantes ?
Écoute, peut-être. On va voir.
On ne connaît pas la ville encore. Hein.
Exactement.
Très bien. Très bien, c'est bien. D'en être certaine. Et quand il sert à la peur des termes, ce soir ne m'oublie pas. Je t'attendrai au moins le temps d'étirer. Que j'ai voulu prendre le plus grand risque. Un soir qui m'a rendu bien triste. Un soir plastal. Bon, et bien, on rentre de Nantes là. On n'a pas pu filmer le concert parce qu'ils interdisaient. Ils interdisaient les GoPro, les perches. Donc, du coup, on a été confisqué de la perche et de la carte mémoire. C'est dommage parce que j'aurais bien filmé tout ça.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Employeurs, employés, connaissez-vous vos droits ? Droit du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche. Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droits de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche en direct à l'antenne.
L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Avez-vous remarqué ? Chaque jour amène son lot d'histoires de piratage informatique, de vol de données, de questions de cybersécurité et de mots de passe à changer d'urgence. Et puis, souvenez-vous, la semaine dernière, nous parlions du poids démesuré des géants du numérique, des Google, Amazon, Facebook et Apple et de toute leur puissance, mais aussi de la loyauté qu'on est en droit d'en attendre. Loyauté, oui, une belle expression pour réclamer un peu plus de constance et un peu plus de clarté pour nous autres, internautes qui publions, partageons et commentons chaque jour. Oui, quand je signe des CGU, des conditions générales d'utilisation, je veux être sûr de bien les comprendre et que les règles du jeu ne changeront pas tous les jours comme c'est finalement trop souvent le cas. Alors, quelle n'a pas été ma surprise en voyant passer mardi dernier sur Twitter, pour ne pas le nommer, un article intitulé de la manière suivante « Nous voulons utiliser les données de manière responsable ». Et devinez qui a eu le culot de prononcer ces mots, la numéro 2 de Facebook. Alors forcément, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis d'abord dit, j'espère bien que mes données sont et seront utilisées de manière responsable. Après quoi, évidemment, je me suis rappelé toutes ces photos, ces images, ces informations personnelles dont j'avais abreuvé mon compte Facebook.
Eh bien, toutes ces données, je ne les ai pas partagées dans un espace régulé par une puissance publique et démocratique, non. Je les ai tout simplement abandonnées dans un grand centre commercial à ciel ouvert où nous sommes 1,5 milliard à nous promener au quotidien. Un espace accessible à tout moment depuis mon téléphone sud-coréen, mais aussi un espace dont je ne sais pas finalement qui en assure le contrôle et la sécurité. À telle enseigne que j'ai eu envie aujourd'hui de vous poser la question suivante, mais qui veut la peau des internautes? Nous essaierons d'y répondre d'abord en compagnie de Tristan Nito, fondateur de Mozilla Europe, qui a publié en octobre 2016 Surveillance 2./ Les libertés au défi du numérique, comprendre et agir, un livre publié aux éditions CEF. Et vous verrez, il nous parlera de cette traque permanente qui pose bien des questions. En seconde partie, c'est avec Nicolas Arpagian, auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité, que nous essaierons pour le coup de comprendre qui sont les forces qui, sur Internet, s'affrontent par attaque informatique interposée. Tout un programme en somme, mais tout de suite, on appelle Patient Ligodi à Kinshasa pour nous parler du site actualité.cd. Bonjour Patient.
Bonjour Julien, comment tu vas?
Ça va très bien, merci. Alors vous êtes journaliste, vous êtes installé à Kinshasa et vous êtes le directeur général du site actualité.cd qui est né, si je ne me trompe pas, en août 2016. Alors Patient Ligodi, actualité.cd, qu'est-ce que c'est?
Actualité.cd, c'est un site internet d'information spécialisé en politique, sécurité et économie. Nous sommes un site qui emploie 8 personnes en fait au total, c'est-à-dire des personnes qui travaillent au quotidien sur la collecte, le traitement et la diffusion des informations de la République démocratique du Congo. Alors, actualité.cd, c'est également les nouveaux-nés du paysage médiatique congolais. Nous avons environ 25 000 visiteurs uniques par jour et par mois, on arrive à totaliser une bonne moyenne d'un million de visiteurs dans un pays qui est caractérisé par un taux de pénétration d'Internet d'environ 4% de la population nationale. Et donc, actualité.cd essaye de répondre à une question, à une seule: comment faire pour accéder à l'information congolaise à collecter, traiter et diffuser par le Congolais. Donc, on est parti d'un constat, c'est que aujourd'hui, pour aller chercher l'information, on ne va pas allumer sa radio ou sa télé, le premier réflexe, c'est aller sur Internet. Or, quand on va sur Internet, ce qu'on trouve, c'est de l'information produite par RFI, par Jeune Afrique et par d'autres médias qui sont basés en Europe. Alors, on a essayé de faire quelque chose qui permettra aux Congolais de suivre l'information traitée par les Congolais.
Avec un parti pris, Patient Ligodi, si je ne m'abuse, qui est d'accompagner les acteurs de la vie politique au sens large, c'est-à-dire ceux qui manifestent, ceux qui ont envie de faire en sorte que les choses bougent en RDC. Patient Ligodi.
Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, ceux qui manifestent, ceux qui sont dans la rue, ceux qui vont casser, c'est des jeunes d'environ 14, d'une tranche de 14 à 35 ans, des jeunes qui n'attendent pas les 20 heures de la télévision nationale pour se faire une opinion, pour avoir une information. C'est des jeunes qui ont des nouvelles habitudes de consommation de l'information et qui sont tout le temps sur leur téléphone, qui sont tout le temps sur smartphone, sur WhatsApp, sur Facebook et qui, aujourd'hui, contribuent à faire en sorte que le paysage politique congolais puisse basculer et qui ont leur mot à dire. Donc nous sommes dit, ok, on va s'orienter essentiellement vers ces jeunes qui bouleversent les paysages politiques congolais. Nous, on va les suivre également, donner la parole à ces jeunes. C'est ce qu'on fait sur actualité.cd. Donc, on est focus sur un public qui est entre 14 et 35 ans. Et évidemment, il y a également des personnes un peu plus âgées qui sont sur actualité.cd, évidemment des politiques.
Patient Ligodi, on l'entend, il y a une dimension entrepreneuriale finalement dans votre travail. Vous avez déjà travaillé dans des projets financiers de création de médias comme Univers FM. Si on se recentre sur actualité.cd, quelle est la prochaine étape pour vous, Patient Ligodi?
Alors, la prochaine étape pour nous, c'est déjà de consolider le web d'information en RDC. C'est faire en sorte que nous avons créé avec des amis une association qu'on appelle l'Association des médias d'information en ligne en RDC. On a tenu la première table ronde sur les médias informés sur Internet avec les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication en RDC. Nous voulons en fait, avec l'expérience actualité.cd, aider des autres confrères, des autres amis qui sont également dans l'équipe informée à pouvoir bien donner de l'information, à valoriser Internet en ce qui concerne les médias d'information ici en République démocratique du Congo. Donc, pour nous, la prochaine étape en tant que structure, c'est d'aider en fait à la construction d'un écosystème sur les médias d'information en ligne en RDC, et surtout de pouvoir contribuer à l'émergence de nouveaux types de médias en République démocratique du Congo. Ça peut passer par Actualité.cd, par UDRSM ou par Foot.cd, ou encore par la structure, l'association des médias d'information en ligne. Mais l'idée, notamment, c'est de créer un vrai écosystème qui permettra, en fait, aux jeunes qui sont encore à l'université de ne pas abandonner les journalistes, mais pour aller faire autre chose. Parce que nous pensons que les journalistes sont encore de beaux jours devant.
Et l'atelier des médias de RFI suivra ça de près, évidemment. Patient Ligaudy, je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste et que vous êtes le directeur général du site d'information actualité.cd. Merci Patient.
Merci beaucoup Julia.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'atelier des médias? Le site Breitbart menace-t-il la culture journalistique allemande? L'arrivée annoncée du site Breitbart, un média américain politique d'extrême droite en Europe, fait débat et pose beaucoup de questions au sérail médiatique allemand. D'ailleurs, l'un des leaders de l'AFD, un parti d'extrême droite allemand, s'est exclamé la semaine dernière sur Twitter « Breitbart arrive en Allemagne, formidable, ce sera un vrai tremblement de terre dans notre paysage médiatique défraîchi ». Paysage médiatique défraîchi. Ce que sous-entend cette expression, c'est que les codes journalistiques en Allemagne datent de l'après-guerre et ne répondent pas ou ne répondent plus aux attentes du public d'outre-Rhin. Il faut dire que les irrévérences, les petites phrases, voire les fausses informations publiées à tire-larigot depuis des années par le site américain Breitbart n'ont rien à voir avec les manières policées et le respect des règles des médias en Allemagne. Oui, parce que outre-Rhin, un code tacite veut que les médias coopèrent avec les autorités ou les attachés de presse pour maintenir une forme de statu quo politique. Les médias d'information allemands sont enracinés dans une tradition d'après-guerre de reportages neutres, équilibrés et exprimant diverses opinions tant que ces reportages sont conformes à la politique commune d'après-guerre qui évite le nationalisme explicite et privilégie un consensus poli, explique la journaliste Soumi Somaskanda sur Slide.fr, et cela peut passer par des arrangements sur les interviews, voire des relectures et parfois des refus de publier de la part des interviewés. Or, aux États-Unis, le succès du site Breitbart, qui est dirigé par Steve Bannon, faut-il le rappeler, qui est un conseiller de Donald Trump, a augmenté progressivement avec la défiance croissante du public américain à l'égard des médias jugés trop proches des pouvoirs en place. Autrement dit, c'est tout le sérail journalistique en Allemagne qui s'interroge sur ces pratiques. 1. Comment rester le plus transparent et le plus indépendant possible, mais surtout 2. Offrir une parade efficace à des médias sans vergogne qui publie parfois des contre-vérités. Oui, parce qu'il y a quelques jours, un article publié sur la version américaine de Breitbart a raconté qu'une bande de musulmans avait mis le feu à une église dans la ville de Dortmund le soir du Nouvel An. Cette histoire est évidemment complètement fausse, mais ça ne l'a pas empêché de faire le tour du net en Allemagne et d'attirer évidemment l'attention sur l'urgence de la situation. Si Breitbart débarque en Europe, il faut espérer que les codes journalistiques vont bouger en Allemagne pour mieux barrer la route à la désinformation. La réforme du droit d'auteur en Europe risque-t-elle de tuer nos bons vieux liens sur les réseaux sociaux ? C'est en substance l'idée que défend notamment la députée européenne issue du parti pirate allemand Julia Reda. Cette réforme en cours de négociation au Parlement européen concerne avant tout le droit d'auteur et de la création à l'heure du numérique. Mais elle pourrait s'étendre aux éditeurs de presse en reconnaissance, je cite, de leurs investissements et de leur contribution à la création de contenus journalistiques de qualité. Objectif affiché, pouvoir négocier l'utilisation de leurs contenus avec les services en ligne qui les utilisent ou en permettent l'accès, et d'autre part, lutter contre le piratage. Alors, traduction selon l'eurodéputée Julia Reda. En voulant créer ce droit voisin au droit d'auteur sur les articles de presse, on risque de limiter la possibilité pour les internautes comme vous et moi de partager des liens en provenance des sites d'information en Europe. Deuxième élément qui est également dénoncé par la Quadrature du Net, la censure automatisée des contenus partagés pour vérifier s'ils ne correspondent pas à des œuvres protégées engendrerait tout simplement la création de véritables machines machines à censurer. Pourquoi ? Eh bien parce que les robots chargés de surveiller les partages, mis en place par des géants du numérique, se transforment aussitôt en auxiliaires de police privée qui défendent le droit d'auteur. Cerise sur le gâteau, selon Julia Reda, les sites relayant de fausses nouvelles sponsorisées par des États situés hors du vieux continent, comme par exemple Russia Today, ne seraient pas soumis à cette contrainte, contrairement aux grands journaux européens. Résultat, la réforme du droit d'auteur en Europe pourrait bénéficier aux sites de propagande ou de fake news qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est d'être pillés, partagés et relayés. Pour en savoir plus, je vous invite à jeter un coup d'œil à la campagne Save the Link, qui est plutôt bien faite et qui vous aidera à y voir plus clair dans ces enjeux. Où sont les femmes sur Wikipédia ? C'est ainsi que la journaliste du Guardian, Laura Bates, interpellait en décembre dernier l'encyclopédie collaborative Wikipédia. En effet, 83% des biographies qui sont consacrées à des personnalités sur Wikipédia le sont à des hommes. Et c'est ce que rappelle Philosophie Magazine dans sa dernière livraison, qui tente d'ailleurs d'y chercher des raisons. Leur exclusion historique de la vie publique est sans doute l'un des facteurs de cette inégalité criante, mais le fait que 15% seulement des contributeurs sur Wikipédia soient des femmes est évidemment à prendre en compte. D'ailleurs, entre parenthèses, ces proportions sont à peu près les mêmes quand on regarde les fans de l'Atelier des médias. Alors, mesdames, n'hésitez pas à montrer que vous occupez le terrain. Contribuez donc sur Wikipédia, bloguez et continuez d'interagir avec nous et de vous faire entendre sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent revenir sur quelques-unes de ces brèves, je vous rappelle qu'à l'atelier, on tweet presque tout ce qu'on brève au micro. Donc tous les liens sont à retrouver dès maintenant sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media.
RFI.
Dans son livre « Surveillance » publié en octobre 2016 aux éditions C&F, Tristan Itô, fondateur de Mozilla Europe et ancien membre du Conseil National du Numérique, tente de faire le tour de tous ces dispositifs numériques qui nous surveillent au quotidien. Oui, parce que vous vous souvenez peut-être de l'adage « Si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous ». Alors Tristan Itô s'efforce au fil des pages d'apporter des solutions pour reprendre en main le contrôle de nos vies numériques. Quand elle a vu le soutien titre de son ouvrage « Comprendre et agir », notre reporter Marie-Stéphanie Servos est partie à sa rencontre pour tenter d'en savoir plus. Et vous allez voir, surveillance2.//, c'est un peu plus qu'un livre, c'est d'abord une mise en garde.
Alors c'est un livre qui explique comment, en fait, on est en train de se diriger vers une société de la surveillance, puisque avec on utilise nos ordinateurs et avec on utilise des services type Gmail, Facebook et autres qui concentrent nos données. Et puis, au final, nos données, elles sont sur des serveurs de société dont le métier est de nous profiler, de tout savoir sur nous. Après les révélations Snowden, on a appris que la NSA voulait écouter tout le monde et que ça leur coûtait trop cher. Donc, ils allaient piocher les données chez Google et Facebook et d'autres.
Pourquoi vous avez choisi d'intituler ce livre « Surveillance de point slash slash » ?
C'est un clin d'œil au protocole d'Internet. Donc, on se souvient du HTTP 2./ facebook.com, par exemple. Donc, il y a un mode de communication qui explique qu'en fait, c'est pas HTTP qui est en train de se mettre en place, c'est plutôt un protocole de surveillance qui est en train de se mettre en place au niveau de la société. J'adore vos questions sur Google Drive.
Eh oui !
Mais la protection des sources.
Bah justement, Google, parlons-en, on va en parler tout de suite. Dans votre livre, vous expliquez qu'il faut littéralement bannir l'utilisation de Gmail. Pourquoi et comment surtout ?
Alors, c'est pas tant qu'il faille bannir, il faut juste déjà être conscient de ce que la gratuité de Gmail implique. Concrètement, Gmail, c'est offert gratuitement. On a l'impression que c'est gratuit parce qu'on leur donne pas d'argent. En fait, on échange nos données personnelles contre le service Gmail. Et c'est absurde, en fait. Plutôt, c'est une mauvaise affaire. C'est pareil avec Facebook. Facebook prend toutes vos données et vous donne en échange un service qui leur coûte 5€ par personne et par an. D'autant que ces données, ensuite, elles peuvent être utilisées contre vous. Et là, on est mal.
Le fameux « si c'est gratuit ».
C'est vous le produit. Ce qui est une expression que j'utilise moins souvent, mais j'ai plutôt tendance, par exemple, à faire une analogie avec les cochons dans une porcherie. J'imagine deux cochons en train de discuter. Il y en a un qui dit à l'autre « J'adore cet endroit parce que la nourriture est gratuite. » Et l'autre lui dit « Et en plus, on est logé gratuitement, c'est formidable. » Avec Google, Facebook et tous ces services gratuits, c'est exactement pareil. On est les cochons du numérique. Bon, évidemment, on finit pas découpé en tranches, mais on est finalement le produit qui est vendu et même le consommateur aussi de ce produit.
Est-ce que c'est pas inaccessible pour monsieur et madame Michu de vouloir dégoogliser l'internet comme le dit Framasoft, justement, que vous soutenez, je crois savoir par ailleurs?
Alors effectivement, c'est un défi que de dire il faut trouver une alternative à Google et à Facebook, mais des défis, moi j'en ai vécu d'autres. J'ai passé 17 ans de ma vie sur un projet qui s'appelle Mozilla, qui a donné lieu à Firefox, à une époque où j'ai monté l'association Mozilla Europe en disant, avec pas d'argent et quelques bénévoles, on va aller renverser Microsoft et Internet Explorer, on va offrir une alternative de meilleure qualité. Et pourtant, ça a marché. Firefox et 500 millions d'utilisateurs. Donc des défis un peu délirants dans l'informatique, c'est quelque chose qu'il est possible de relever et peut-être de gagner. Moi, ce que je voudrais, c'est expliquer aux gens que ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire fondamentalement, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Vous stockez vos données dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre avec des logiciels que vous ne contrôlez pas.
Est-ce que, du coup, on peut dire, en quelque sorte, qu'il y a un choix à faire entre l'utilisation d'Internet et la vie privée?
Non, pas du tout. On ne peut pas dire ça. Je comprends qu'on puisse avoir cette impression. Se dire, ah oui, c'est fichu, on ne peut pas utiliser d'autres. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et la raison pour laquelle, en fait, dans mon livre, il est sous-titré « Comprendre et agir », c'est que je veux expliquer les racines du problème, mais je veux surtout démontrer qu'il existe des solutions alternatives qu'on peut utiliser dès aujourd'hui sans avoir à se résigner à être espionné.
Est-ce qu'on peut envisager notre avenir à l'image du roman d'anticipation de George Orwell, 1984 ?
Peut-être qu'on est en train de se construire une société à la 1984, encore qu'on fait pire, en ce sens que on paye très cher nos smartphones en leur disant d'utiliser les services de Google et de Facebook, et on leur donne les données volontairement et on finance ce système, ce qui est complètement hallucinant. C'est comme si les cochons qui sont fermés payaient eux-mêmes les barrières et les couteaux du boucher. Donc c'est aberrant. D'un autre côté, le futur, il n'est pas écrit. Il y a un penseur du numérique qui disait que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et je suis complètement dans cette approche. C'est-à-dire que dans le livre, j'explique les problèmes, mais j'explique aussi comment on peut les résoudre. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme un outil informatique, ce que j'ai appelé le circus, les systèmes d'information redonnant le contrôle aux utilisateurs. Eh bien, voilà, on peut inventer des circus, des systèmes décentralisés qui utilisent des logiciels libres, du chiffrement, et qui soient mis à la disposition de chacun pour que chacun soit maître de ces données.
C'était Tristan Nitto au micro de Marie-Stéphanie Servos pour son livre Surveillance de ./ Les libertés au défi du numérique, comprendre et agir, un livre publié aux éditions C&F. Je vous propose de prolonger dans un instant ces réflexions sur la surveillance en abordant la thématique de la sécurité informatique et de la cyberguerre, comme on dit, avec Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité. Allez, à tout de suite après le flash. Atelier des médias, seconde partie. Pas une semaine ne passe désormais sans que l'on entende parler du rôle des pirates informatiques russes dans l'élection présidentielle américaine, des velléités de la Corée du Nord en matière de cyberattaque, mais aussi des risques que font peser des écoutes sur nos libertés et nos démocraties. Et je ne parle même pas des vols réguliers à grande échelle de millions de données d'utilisateurs hébergées par des multinationales, pas toujours suffisamment armées pour sécuriser ces informations sur vous, sur moi et sur toutes nos données. Depuis que le cyberespace, comme on dit parfois, existe, il reste donc tout un monde à inventer. Il manque à ce territoire connecté, fait de 0 et de 1, comme un code de la route, un code de bonne conduite, voire un droit de la guerre explicite, comme on dit parfois, qui permettrait de s'entendre sur les règles du jeu, mais surtout sur la définition d'une cyberagression. Bref, j'ai envie de poser la question suivante, mais finalement, qui veut la peau des internautes? Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
En gros, cela fait des années que vous écrivez écrivez, que vous parlez aussi sur des questions de sécurité informatique, de cyberguerre. D'ailleurs, oui, un fait intéressant pour annoncer la couleur. Votre pseudonyme sur Twitter, c'est...
Cyberguerre.
D'où vous vient finalement cet intérêt plus que marqué pour cette forme de conflit, Nicolas Arpagian ?
En fait, c'est de s'intéresser qu'à chaque fois qu'on a mis des outils numériques, des ordinateurs, des téléphones dans les mains des personnes, justement des utilisateurs, ils ont été amenés à en faire un usage offensif. Et donc, dès lors que l'on va s'intéresser à l'attaque, il est également utile de se préoccuper de la défense. Et tout cela crée un écosystème dans lequel on va retrouver des particuliers, des individus, mais également des entreprises, des états-majors, et puis toute l'activité criminelle qui peut justement être motivée par trouver de l'argent ou en tout cas porter des coups à ses adversaires.
Alors peut-être justement un premier enjeu pour nous, évident, c'est tout simplement de passer par un peu de définition pour essayer de cerner de quoi on parle. Vous qui avez beaucoup écrit sur ces questions et qui êtes l'auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité, comment expliquer à ma grand-mère ou aux jeunes auditeurs qui nous écoutent depuis Bamako ou Port-au-Prince ce que c'est que la cybersécurité ?
En fait, c'est la capacité à protéger tout ce que l'on produit, tout ce que l'on est de manière numérique. En fait, dans cet univers, ça peut être pris, on peut prendre le contrôle à distance. Pour faire simple, il y a deux composantes. La première, les tuyaux, votre système informatique, l'ordinateur que vous avez à la maison, au bureau. On peut rentrer dedans de manière à espionner tous les usages que vous en faites. Ensuite, l'étape d'après peut être éventuellement de modifier quelques éléments de cet ordinateur de manière à ce que quand vous tapez un A, bah, c'est un E qui va apparaître, ou lorsque vous commencez à élaborer des formules mathématiques, bah, on va essayer de les modifier de manière à la rendre inopérante. Troisième possibilité dans un système d'information, c'est éventuellement de le suspendre, faire en sorte que pendant certaines minutes, pendant certaines heures, il ne marche pas. Et enfin, de le mettre hors d'état de fonctionner. Alors vous vous doutez bien que ces attaques, elles peuvent viser des particuliers certes, mais également des administrations et des processus industriel. Deuxième composante, les contenus, l'information qui a une valeur. Je rentre dans le système de manière à capter cette information, d'une part pour en prendre connaissance, mais également, pourquoi pas, pour la publier, de manière à créer une perturbation et ainsi à attaquer mon adversaire. Et éventuellement, je peux diffuser de fausses nouvelles de manière à affecter la réputation de quelqu'un, voire modifier son cours de bourse ou en tout cas faire en sorte que l'opinion publique ait une idée fausse de ce qu'il représente.
Alors là, on a eu une vision tout de suite un peu globale et rapide. Si on redescend un petit peu sur l'emboîtement des notions, on voit que adossé à la notion de cybersécurité, il y a celle un peu de cyberespace. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce cyberespace ? C'est le nom un peu pompeux et ancien, devenu de facto synonyme d'Internet, c'est-à-dire cet espace de communication internationale qui est créé par l'interconnexion mondiale des ordinateurs. Est-ce que je me trompe ?
Effectivement, c'est un maillage qui fait d'ailleurs qu'on parle qu'il est résilient. On parle du web, du World Wide Web. Pourquoi ? Parce que ça fait penser à cette toile d'araignée. Dès lors qu'un pan de la toile serait cassé, serait brisé, effectivement, l'information, la connexion peut se faire par d'autres éléments du maillage. C'est ce qui permet d'être résilient, c'est-à-dire de résister à un certain nombre d'attaques importantes.
Et j'ai l'impression que l'un de vos credos, c'est de dire, en un certain sens, que l'Internet, ça sert aussi à faire la guerre.
Ça sert en tout cas à tous les usages de la vie humaine, et il s'avère que depuis qu'il y a 2-3 hommes sur Terre, ils s'affrontent, ils se tapent dessus, et donc il n'y avait aucune raison que ce territoire numérique échappe à cette tendance profondément humaine à s'affronter.
Donc on y arrive, il va falloir définir cette fameuse notion de cyberguerre. En un mot pour vous, comment le dire très rapidement aux auditeurs ?
Alors en fait, il s'avère qu'il faut déjà parler de la guerre. La guerre, c'est une activité qui est donc, comme je le disais, éminemment humaine. Par contre, au fur et à mesure des siècles, elle a été codifiée. On a établi ce qui s'appelle un DCA, un droit des conflits armés. Dans le cas de Convention de Genève, des Nations Unies, on a établi ce qu'était la déclaration de paix, la déclaration de guerre, le traitement pouvant être réservé aux populations civiles, aux militaires, et ainsi on a un peu codifié cette manière de s'affronter et évidemment, hélas, tragiquement, de se donner la mort. Il s'avère que dans l'univers du cyberespace, on va être à même de porter des coups, c'est-à-dire de voler de l'information, éventuellement de détruire des infrastructures, voire des effets qui peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine. Par contre, on est dans un univers où, pour l'instant, le droit n'existe pas et toute cette codification qu'on avait établie dans le monde physique n'est effectivement plus de mise. Et c'est pour ça que dans cet univers, on n'est pas un État contre un autre État forcément, qui est une logique de symétrie où des entités de même nature, de même taille sont capables de s'affronter. Sur Internet, ça peut être au contraire l'accomplissement de l'asymétrie. Ça veut dire qu'un individu isolé peut attaquer une grande entreprise, voire éventuellement un collectif de personnes qui ne se connaissent pas mais qui ont ensemble cette motivation et dans différents points du globe peuvent se coaliser pour attaquer une organisation étatique.
Nicolas Arpagian, je vous propose de faire un peu d'archéologie justement de la cyberguerre pour qu'on sorte un peu des concepts. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite du côté de Tallinn en Estonie.
Préparer la cyberdéfense de l'OTAN, c'est le rôle de ce centre tout près de Tallinn. Tout récemment, des exercices ont été menés pour simuler des cyberattaques et l'Estonie en connaît un rayon. Ce pays d'1,3 million d'habitants est hyper connecté, quasiment tout se fait en ligne, mais c'est aussi sa vulnérabilité. En 2007, alors que les tensions étaient très vives avec la Russie, des hackers russes ont paralysé le système. Cela a souvent été décrit comme une cyberguerre contre l'Estonie, mais c'était plutôt du cyberhooliganisme organisé. Les ordinateurs et les réseaux peuvent être des équipements utiles, mais aussi des armes.
On a écouté donc un extrait d'un reportage d'Euronews qui portait sur ce centre de l'OTAN, donc perdu en un certain sens dans la pampa estonienne. Alors l'Estonie en 2007, cyber-hooliganisme ou cyberguerre, Nicolas Pagin?
Alors, en tout cas, il n'y a pas une mort d'homme. Et c'est vrai qu'on a tendance à consacrer le terme de guerre pour l'engagement de personnel sur les théâtres d'opération. Là, on est resté dans un monde éminemment numérique. Par contre, ça a créé d'énormes troubles puisque effectivement, l'Estonie est un pays qui avait fait le saut numérique de son économie, de son organisation administrative. En tout cas, ce qui est certain, c'est la première fois qu'on a vu incarner à l'échelle d'un pays entier, même fut-il de petite taille, un moment ce que représente la paralysie numérique quand les administrations, un certain nombre de médias, d'entreprises sont mis hors d'état de fonctionner avec le fait, si cela avait pu durer, effectivement, autant de troubles à l'ordre public, de gens qui peuvent s'inquiéter quant à l'argent qu'ils ont en banque, leur capacité à trouver de la nourriture. C'est effectivement un cas d'école qui marque le début d'une prise en compte du numérique dans l'affrontement interétatique.
Deuxième aspect mentionné par cet extrait, c'était finalement le rôle prêté aux Russes. Pourquoi dès lors qu'on parle d'attaque informatique, la figure du pirate russe est présentée comme un personnage incontournable, Nicolas
Alors,
Pagin.
Dans cette affaire estonienne, il s'avère que là, il y avait un contexte politique, puisque c'est venu notamment d'une statue qui célébrait en son temps la libération, entre guillemets, de l'Estonie par l'armée rouge, et le gouvernement d'Estonie avait envisagé de la déplacer dans un cimetière militaire en périphérie de la ville. Et manifestement, un certain nombre de Russes, de citoyens russes, avaient trouvé cette démarche d'éménagement comme étant outrageant et donc avaient manifesté leur opposition. En tout cas, là, on était dans un contexte politique qui permettait d'envisager une responsabilité russe qui, après, d'un point de vue technique, n'a pas réellement été établie, mais le contexte de l'affaire permettait d'envisager tout à fait une réponse.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adrabenakouza, adrabenakouza, dingedon.
Non, dingedon.
Écoutez la planète chanter.
Ae, couleur tropicale, yeah.
Couleur tropicale.
On dirait de l'eau sucrée.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on plonge.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Couleur tropicale, présentée par Juliette Piévert.
Juliette Piévert.
Hello la famille, bienvenue dans Couleur Tropicale avec Benjamin Sarallier et Steven Elsley à la réalisation, Annabelle Jogamandi notre assistante et Hervé DJ FMK. Bon, grosse journée aujourd'hui car nous allons passer un petit coup de téléphone au boss Claudie qui est en direct du plateau de The Voice Afrique. Il va nous raconter un peu comment cette énorme émission se déroule actuellement et en seconde partie, chose promise, chose due, nous recevrons le nouveau poulain du label Momaye Music, le plus que talentueux que Black. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos vos questions pour lui sur le Facebook de Couleur Trop ou par SMS au 00 33 6 30 30 68 13. Allez, c'est parti, on appelle Claudie. Allô Claudie, est-ce que tu es avec nous? Claudie,
c'est Madame Juliette Fiévé, la présentatrice, l'animatrice, la productrice de Couleur Tropicale, jusqu'au 20 janvier.
Jusqu'au 14
comment
mars.
Comment ça va pour toi? Bon, dis-moi, comment ça va déjà? C'est moi qui te pose des questions. Pour commencer, on ne se refait pas. Comment ça va pour toi à Couleur Tropicale? Moi, je t'écoute, hein, donc je suis très heureux que tu sois là, évidemment, tu le sais. Et c'est un bonheur de t'entendre et les auditeurs t'aiment, toi-même
écoute,
tu t'aimes.
Ah, écoute, merci, c'est un bonheur d'être là, tu sais à quel point c'est un honneur, à quel point je suis ravie, on s'amuse, j'apprends plein de choses, je découvre plein d'artistes et voilà, je suis vraiment honorée d'être un tout petit peu dans tes chaussures. Évidemment, l'élève ne dépasse pas le maître et je te remercie encore officiellement, même si tu sais à quel point je te suis reconnaissante. Voilà, merci encore pour cette belle opportunité que de présenter l'émission Couleur Trop, l'émission de la famille. Donc ouais, on s'éclate, vraiment on s'éclate, Claudie, si tu veux. Tu peux rester un peu plus longtemps, hein, moi je veux bien. Je peux te remplacer jusqu'au mois de décembre, si tu veux.
D'accord, ok. Mais en 2022.
Ouais,
d'accord,
c'est ça. Bon alors, Claudie, là, t'es en direct du plateau de The Voice sur le continent. Ouais. Comment ça se passe?
Ah, écoute, c'est déjà une aventure extraordinaire. On bat des records d'audience, hein, au moment de la diffusion des émissions. Mmh. Et ça, c'est magnifique. Il y a de grandes stars, par exemple afro-américaines, qui s'intéressent à The Voice, à ce qui se fait sur le plateau, qui retweetent. Enfin bon, c'est un succès surtout et avant tout parce que c'est pour le public que nous faisons cette émission-là. C'est un succès populaire. Et ça, vraiment, c'est le but que chacun voulait atteindre. Alors évidemment, Roland Camonier, Jules Domché, donc Vox Africa, mais également tous les coachs, Charlotte Dipanda, Lokwakanza, Salfo, Singila et moi-même, on voulait que ce soit Africa Unite, on voulait que ce soit la mise en valeur, en lumière de tous ces talents d'Afrique. Et je tiens à le dire, c'est pas du chauvinisme, mais c'est une réalité, toutes celles et tous ceux qui regardent le savent, le niveau est exceptionnel.
Ouais, c'est ça, mais c'est incroyable. Parce qu'à Paris, on le voit, Claudie, en fait. Il y a beaucoup de gens aussi qui regardent en France le show.
Oui, partout,
et tout le monde se prend des claques en disant mais le niveau est juste hyper élevé, c'est incroyable. C'est quasiment des professionnels, en fait. Ce sont des professionnels, finalement.
Ben, puis-je me permettre de dire, là encore, je ne prêche pas pour ma chapelle, mais c'est encore une fois une évidence, vous avez quand même des talents, des artistes, de jeunes artistes, qui sont capables d'interpréter les plus grands succès pop afro-américains ou des standards de jazz, de la musique classique, de la variété française, et évidemment, et heureusement, toute la pop africaine, mais aussi des chansons traditionnelles africaines, des chansons caraïbéennes. Ils sont capables de tout ça. C'est un truc juste exceptionnel. Demandez aux talents, par exemple, de The Voice en Hollande, d'interpréter des chansons traditionnelles africaines.
Ou du Francis Cabrel.
Pas du tout, ou ce ça. Enfin, voilà, beaucoup n'y arriveraient pas. Donc, pour nous, c'est une véritable fierté. Et je dis toujours que lorsque des pays n'ont pas les moyens des États-Unis, n'ont pas les moyens de la France ou de l'Angleterre, eh bien, il y a un terrain sur lequel on peut rivaliser, c'est celui de la culture, c'est celui de la musique, c'est celui de la culture en général, du théâtre, du cinéma, enfin, bon, le cinéma, c'est un peu compliqué.
mais en tout cas, de la culture. Oh, quoique, hein, le cinéma, quand même, tu vois, Nollywood,
oui,
c'est quand même...
On n'est pas quand... Ouais, mais on a quand même du mal pour l'instant à rivaliser en termes de production. Mais là, parce que le talent brut est dans le sport.
Bien sûr.
Voilà, on peut rivaliser aussi parce que c'est des individualités qui arrivent à faire des choses. Donc, The Voice Afrique francophone, c'est un moment extraordinaire de talent, d'identité affirmée et surtout de savoir-faire.
Alors, dis-le, il y a un pays qui domine artistiquement comme ça ou il y a un pays qui est plus fort que les autres?
Juste dire que, effectivement, chaque candidat pourrait, dans l'esprit de beaucoup, représenter un pays. Mais c'est pas du tout comme ça que nous calculons. C'est-à-dire que c'est pas l'Eurovision, The Voice Afrique francophone. Mmh. Ce sont vraiment des talents qui viennent pour chanter pour eux-mêmes. Ils représentent ce qu'ils font, ce qu'ils sont, et ils vont jusqu'au bout de leur passion. Donc c'est pas un truc nationaliste.
Bien sûr.
Et je le dis aux auditeurs, si vous votez, vous ne votez pas pour un pays, vous votez pour un
talent.
Artiste.
Voilà, un talent.
C'est un talent, vous votez pour lui, pour elle, pour ce que vous avez aimé, pour l'émotion qu'elle vous donne. C'est pour ça que vous votez. Vous ne devez pas voter en pensant, ah, il est du même pays que moi, alors je vote pour lui.
Ouais, ça n'a
pas
de
sens. On est dans l'Africa Unite, là. On n'est pas dans l'envie de dire tel pays est plus fort que l'autre. C'est pas vrai, parce que on prend des claques tout le temps avec des artistes dont même moi, je ne connais pas la nationalité des uns et des autres. À force, je connais, mais pour moi, c'est pas dans mon esprit.
Et c'est pas le plus important, en plus. Bien sûr,
c'est pas important, important du tout. Ça ne colle pas.
Alors là, la pression monte, hein, parce que vous arrivez à l'échéance du premier grand show qui, je le rappelle, en fait, est une épreuve éliminatoire, c'est ça, Claudie ?
Oui, oui.
Donc, quatre équipes, quatre coachs, six personnes dans l'équipe jusqu'à présent, deux grands shows à venir, deux candidats éliminés par grand show, prochain grand show samedi, c'est ça ?
Bravo.
Les calculs sont bons.
Alors, bravo. C'est vrai que vous avez bien appris.
Voilà.
Alors, oui, Juliette, c'est exactement ça. Ce samedi, ce week-end, et puis dimanche et mercredi pour les rediffusions, et puis avec les chaînes partenaires, il y aura effectivement le premier grand show avec les premières éliminations. On doit pouvoir arriver à l'issue des deux grands shows, arriver à la demi-finale, et il ne restera plus que 8 talents, c'est-à-dire 2 talents, dans chaque équipe, chaque équipe de chaque coach, donc Charlotte Dipanda, Asalfo, Kim Guillard et Lokua Kanza. Et puis, après cette demi-finale, évidemment, au moment de la finale, il ne restera plus que 4 talents.
Waouh.
Et là, je peux vous l'assurer, mais il y a des...
Il doit y avoir une pression incroyable.
Il y a une pression incroyable. Et puis, les talents travaillent tellement. On se dit qu'ils méritent tous. Moi, je les vois répéter. Je vais avec eux. Puisqu'ils apprennent aussi à se tenir sur une scène, à se tenir devant des
expression
caméras de télévision.
Expression scénique, bien sûr. Ouais. Et occupation
donc,
de l'espace.
Mais l'évolution de ces talents est incroyable. Donc, tous méritent, mais malheureusement... Il n'y en aura que 8 pour la demi-finale, 4 pour la finale, et puis au final, il n'en restera qu'un. Hein.
C'est ça, et juste le meilleur, et que le meilleur gagne. Nous, on se retrouve donc, on te retrouve, Claudie, on vous retrouve tous, c'est ça, samedi prochain, pour le premier grand show. Bon, bah magnifique, mais en tout cas, t'as l'air de bien aller, ça t'a pas donné envie de rechanter, ça, Claudie?
Écoute, tu sais quoi? Oui, justement, oui, et avec Asalfo, je vais parler d'un
Vous allez monter un groupe? Je peux venir avec vous?
Alors, je vais juste vous faire rigoler, parce que évidemment, avec les talents, ils écoutent Couleur Tropicale, ils regardent la télévision, ils ont vu le Claudie Show, enfin bon, bref, et tout ça. Et je parlais avec des talents tout à l'heure, parce qu'Asalfo disait, ben oui, mais Claudie, il chante. Ah bon, Claudie chante, ils sont jeunes. Et, mais oui, Claudie chante les chansons. Et tout d'un coup, je fais, mais oui, par exemple, tu connais cette chanson, Ma Dignité. Et les trois talents se mettent à chanter Ma Dignité. Mais c'est toi. Je dis, oui, c'est moi. Et Zouk est décalé. Mais oui, Zouk est décalé. Donc c'est un truc incroyable. Ça m'a beaucoup touché.
Eh ben tiens, on va jouer Ma Dignité tout à l'heure. Tiens, c'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. T'as de la chance, j'étais à deux doigts de te demander de chanter a cappella, là, tu vois, mais.
Non,
mais...
non, c'est pas ça.
Mais je vais, non, je ne sais pas ça. Mais on va jouer Ma Dignité. Merci à toi, mon Diclo. Tu nous manque, on t'aime fort, passe le bonjour à tout le monde, à tous les coachs, nos encouragements, et bien à tous ces compétiteurs et à ces artistes de talent. Ici, tout le monde t'embrasse, et de toute façon, ici ou là-bas, on est ensemble, toi même, tu sais, grand frère.
Je viens de me rendre compte de quelque chose. Comprends pourquoi sur les réseaux sociaux, tout le monde m'appelle Diclo. C'est à cause de toi.
Ah ben ouais. C'est vrai.
En tout cas, rendez-vous sur Vox Africa. Ce samedi, et puis rediffusion le dimanche et le mercredi, et puis sur toutes les chaînes partenaires pour The Voice Afrique francophone, première saison.
Et toi, n'oublie pas d'écouter Couleur Tropicale tous les jours.
Jamais.
D'accord. Non, sans mon frère. À très bientôt, Claudie. On te suit, on vous suit.
À la famille.
Bye bye.
À la belle, Stéphane, tout le monde. Ciao, ciao. Hervé Mandina. Ciao, la famille.
La Dream Team. Bye bye, Claudie.
Bye. De notre histoire. Qu'as-tu retenu pour demain? De nos chagrins, de nos victoires, de nos chemins illusoires. Dans nos mémoires, les tragédies des peuples noirs. Il y aura-t-il un chant d'honneur pour tous mes frères et sœurs? Je me suis souvent
coupé,
je suis souvent
tombé,
et pour me relever,
croisé le mien. Trop de chagrin, quelques victoires sur des chemins illusoires. Dans ma mémoire résonnent des cris des gens d'ici. J'en oublie toutes mes envies. Pour eux je donnerai ma vie.
Moi fils de Cornelia et de François, dont les ancêtres furent déportés d'Africa. Sur quelle terre devrais-je me sentir chez moi? Pour quel futur, pour quelle culture je me bats?
Ma dignité.
Monsieur Claudie Sillard. Alors c'est vrai qu'a priori, le nom de ce titre, Brûlant et Violent, laisse entrevoir un énième titre de Zouk, Love, que je critique très très souvent hein, à la base de Chéri Coco, Doudou, tu me manques, au niveau d'écriture qui ne dépasse pas le niveau de CM2. Pensez à notre tante Laura Body qui va adorer mes paroles, mais bon, et comme vous avez pu le constater, c'est tout le contraire. Sur ce titre, Claudie y parle même des peuples opprimés. Décidément, notre grand frère est plein de ressources. Je vous rappelle qu'en plus de la chanson, il s'est aussi essayé à la danse. Bref, vous l'aurez compris, pour Claudie, tous les moyens sont bons pour exprimer ses convictions. Il milite même sur du zouk. C'est quand même un truc de ouf. Allez, on reste du côté des Caraïbes avec deux membres du General Crew, Admiralty et Kalash, qui viennent de sortir un nouveau titre, Love Don't Crack. Pour info, le General Crew, c'est un groupe qui réunit Guadeloupe, Martinique et Guyane, composé d'Admiralty, Kalash et Gifta. Jolie symbolique, je trouve. Je rappelle qu'Admiralty se produira sur la mythique scène parisienne du Bercy Accor Arena le 15 avril. Accompagné du nouveau protégé de Booba, Kalash, il nous livre une chanson de vrai lover à des milliards de kilomètres du tube. Tekken, où Kalash fait une drôle de déclaration d'amour à son ex.
Franchement le fond, c'est qui là?
Non, je joue pas le bandit. T'es juste remplaçant sa mère, me l'a bien dit. T'as la main légère, je vais t'enculer tes morts. J'ai des dossiers sur toi, fais pas le mec hardcore. Passe-lui le fond, j'ai pas fini petit pédé.
De la poésie, toujours de la poésie. Bon, alors là pour le coup, Love Don't Crack est un peu plus soft. Et ça vient juste de sortir, c'est tout neuf, tout frais. Admiralty et Kalash en couleur tropicale, coûte ça.
Regardez au prix, m'en senti qu'en fait pas moi. Ah ah, ne me lève à côté, c'est plaisir et puis bonheur. Baby, y'a qui me and you. Pour ça que l'amour nous vraiment spécial. Ah, longtemps que nous jouons à nous. Mais bam, à chaque moment, c'est toi mes fois.
I fall in love with you. From the start, never gonna leave you. Love don't crack. Baby's a ball and now we no need to talk. No need to pass and my love toujours with up. Toujours covering you. Top a top. Vacation disrespectful. Check on our hey, hey, hey.
Never ever.
No need to pass and my love toujours with up.
La capace est plus mon temps de l'homme. Devant nous, car vous l'entendez, puisqu'il l'a. Baby, please, rapproche, il faut qu'on s'en fout. Vous sauvez la vie, moi, faut goûter, voir, moi, baby. Ça, c'est pas un sérieux. On peut pas quitter, ouais. On en vous compte combien de fois.
Faire la peine, moi et vous et moi, qu'on va oublier que moi je sais le savent qu'il y va, qu'il y a de moi. You are my best friend. I fall in love with you from the start. Never gonna leave you. Love don't crack. Bobby's a ball and now we no need to talk. No need to pass and I love to do it.
À Admiralty et Kalash, Love Don't Crack. Et au passage, un big up à Jessica Campbell, la femme et manager d'Admiralty, qui est une vraie businesswoman. Sachez au passage qu'il y a beaucoup de femmes dans ce game, des cultures urbaines et afro, dont on ne parle que trop peu, évidemment.
Musical est phénoménal, couleur tropicale, danger.
Nous l'avons reçue cet été dans les studios de Couleur Tropicale, la Miss Aïna, princesse de la pop R&B, actuellement en préparation d'un nouvel album. Elle est l'illustration que le talent ne suffit pas toujours. Et parfois, eh bien, des énormes titres qui ont clairement toutes les chances de devenir des hits passent au travers des oreilles des programmateurs radio. C'est le cas de notre prochain titre, Cette vie m'emporte. Petit bijou musical, trop peu connu, sur lequel nous retrouvons Aïna, en feat avec notre invité du jour, Que Black. C'est une énorme production du label Beaumaillé et au passage un énorme big up encore une fois à Lassana, Youssoupha et Philo. A noter que l'équipe vient de monter un site super bien fait qui parle des musiques afro-urbaines, ça s'appelle African Move. Connectez-vous la famille. En attendant, c'est Aïna et Que Black, cette vie qui m'emporte. À tout à l'heure.
Je cours et je vole, je me fous des éloges, je ressasse les époques, soudain j'ai plus besoin de potes, des cahiers d'école, j'ai cassé les codes, et j'aime cette vie qui n'est que vent mais qui m'emporte.
Je cours et je vole, je me fous des éloges, je ressasse les époques, soudain j'ai plus besoin de potes, des cahiers d'école, j'ai cassé les j'ai refermé les portes, j'ai redoublé d'efforts. Ces pensées me frôlent, maintenant j'y pense et j'en rigole. Sans traîner au sol, je me relève et je donne. Car j'aime cette vie qui vise la mort et qui m'emporte. J'ai douté mes forces, durci comme l'écorce. J'ai chargé l'épaule et quand je souffre, je m'isole. J'ai crié.
Ne partez pas, messieurs et dames, hein. Nous revenons après les informations. Hein.
Découvrez une série de reportages.
Les petits vimeux, c'est sûrement Tipeee.
sent bon.
Dans la maison règne un air de fête.
Tout tourne en rond. L'alcool me monte à la tête.
Wouh!
Quand c'est plus la sonnette qui fait ding-ding. Ding-ding-ding. J'ai déjà pas fait ding le champagne.
Ding-dong-ding.
Un petit rigodon sur un air de swing.
Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée.
En vous voyant arriver, Mahoudra sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont fresquinés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement.
Que c'est charmant,
chez nos parents,
ce que ça sent bon. Dans nos vieilles maisons, sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir, y'a d'une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon, hurle, paix, tire une bouffée, en attendant nos invités. Les voisins arrivent gaiement, avec leur douzaine d'enfants. En montant, on est couché, cinq balles, il faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans lui. On descend le cœur joyeux en attendant les violonneux. Parce que c'est gay dans nos veillées, la vie a du bon rond dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Ticho avec Joséphine, le grand Arthur et Caroline, Thérèse avec Poléon, puis tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, des musiciens tapent du pied. C'est Frétine qui va coller le premier set de la veillée. Swingez-la, suspenchez-la, les gigueux sont fatigués. Des rêves, ce qui est tout fait, est allé ôter son corset. Dans son gaiement,
c'est le bon temps.
Du rigodon,
dans les maisons.
Quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des crotons. Du ragoût de pâte de cochon, la tourtière puis du jambon. Pour dessert sur la table, notre bon sirop d'érable. Des beignes de la crème d'habitant, les saints-jours en feu de cran.
Maintenant qu'on a trop mangé, on peut la peine de souffler. Des histoires à raconter, on dira ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au revoir en voyant.
Oh yeah! Ça marche comme ça. La vie a du bon dans nos vieilles maisons. C'est la tradition dans nos vieilles maisons.
de loin, revenir au monde, entendre ta voix, tendre les bras et tenir jusqu'au bout. J'ai peur, tu sais, que tout en moi se laisse aller. J'ai peur de tomber, d'abandonner. Je veux rester debout.
Commence là.
Aé, Couleur Tropicale, oh yeah.
Couleur Tropicale.
Ah ouais.
Couleur Tropicale.
Ah ouais.
On dirait de l'eau sucrée.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se mange.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. La lutte libère.
Couleur Tropicale, présentée par Juliette Pievet.
Juliette Pievet.
Hello la famille, bienvenue dans Couleur Tropicale avec Steven Hesley à la réalisation, Annabelle Jogamandi, notre assistante, et Hervé DJ FMK. En ce mercredi 18 janvier, j'avais envie de vous parler et de vous faire partager mes coups de cœur. Hors promotion, intemporelle, tous les titres que nous écouterons aujourd'hui ont contribué d'une façon ou d'une autre à me donner envie d'être dans la musique et de faire le métier de manager ou de journaliste. Oui, j'avais envie de vous faire découvrir toutes ces chansons qui m'ont bien souvent aidé à me relever quand je tombais, ces chansons qui m'ont donné du baume au cœur et qui m'ont rappelé les raisons pour lesquelles je m'étais engagée sur cette voie si difficile parfois. Car en effet, loin des strass et paillettes, la musique est un univers impitoyable où l'endurance et la force de travail priment. Alors oui, c'est un peu ma spéciale aujourd'hui. Nous irons faire un tour d'horizon, de ma BO, tous styles musicaux confondus. Et vous aussi, la famille d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire quels sont vos titres favoris sur les réseaux sociaux qui jusqu'à aujourd'hui, eh bien, bercent votre vie. Et commençons par un très 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 grand classique de la musique africaine, BTC d'Africando. Je vous rappelle qu'Africando est un collectif de musiciens et de chanteurs incroyables. L'idée de monter cette formation est venue du regretté Monsieur Ibrahim Sylla, paix à son âme, et à Bonkana Maiga. Cette réunion est un peu à l'image du Buena Vista Social Club. Sur l'album BTC, on retrouve notamment Koffi Olomide, Papa Wemba, Sekouba Bambino, Lokua Kanza, Salif Keita, Baylis Pinto et Tion Sek avec sa sublime chanson C'est...
Pirel ni bon kon wache sanje boto tagawalu lolu amul bala yo mi dige no nanga ja posapse te famana ton lo nongol dansa dole moy sa wale fo Non, non, non,
far lolo modi si gagne se delena donne bodai changai ludoi jamaju sa lolo modi si gagne se delena.
Hey, de Tion Sec, issu de l'album d'Africando BTC, véritable petit bijou. Alors comme je vous le disais, il est ici question de passer des classiques, peu importe le style musical, peu importe la temporalité, juste des classiques. Il me faudrait certainement un mois entier pour vous passer tous les titres qui m'ont touché. Vous me direz, dans cette sélection très subjective, que certains titres sont plus forts que d'autres car ils ont touché le monde. Et c'est véritablement le cas du légendaire Stand By Me de Ben King, écrit et enregistré en 1961. Ce titre marquera à vie plusieurs générations.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Benny King, un gros classique. Alors cette soul des années 60 a été source d'influence pour de nombreux autres styles musicaux et notamment le reggae. Récemment, le collectif caribéen, eh ben oui, encore un collectif, King of Sound, s'est associé avec le chanteur Blacko, membre du groupe Sniper, pour faire une chanson pleine de soul, d'espoir et de love. Dans ce titre, ils disent qu'ils ne sont pas riches, mais ils vivent comme des millionnaires car ils ont l'amour. C'est I'm Not Rich dans Couleur Tropicale.
I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do. I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ces pour se faire la guerre. Moi je cultive le love, ouais je m'en fous. Je suis un habitant de la terre, un passager, un simple locataire. L'amour m'est vital, il m'est nécessaire. La vraie richesse, c'est le love. Me used to know a man on a skyscraper. Market crash, money turned to vapor. Better know what life is really worth. More precious than diamonds from the earth.
I've been no sell the youth of the future. So not encourage them to turn in a gangster. Got to shower them with love, cause they're a blessing from above. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care. Where's more for you? Just be unhappy. Pour s'immuniser contre le diable, je me fous de vos diamants. Je sais que la valeur d'un homme se trouve dans la force de ses sentiments. Je sais, je suis venu, je devrais partir. À la naissance j'étais nu, je dois m'en souvenir. Mon cœur est un coffre-fort, l'amour est une richesse. Yeah.
Like a millionaire, you know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world.
Le monde devient fou, on n'emporte rien au cimetière. Finalement un diamant ne vaut pas une prière. Il n'existe nul autre trésor sur la terre, la seule richesse c'est le lot. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire.
I'm not rich, king of sand et Blacko. C'est vrai en fait ce qu'ils disent. Moi perso, je connais des gens tellement pauvres qu'ils n'ont que l'argent pour richesse.
Couleur tropicale, tout le monde en parle, Mago aussi. Mais attention à toi, hein. Jamais me quitte pour toi là. Oh, je ne te dis pas au revoir. Coula.
Mais il a cassé le moteur, c'est fini.
Musical est phénoménal. Couleur tropicale, danger.
Bon, ok, vous allez me dire que je suis contradictoire, mais au-delà des messages très forts qui consistent à dire que l'argent ne fait pas le bonheur, je réponds quand même qu'on va pas se mentir et qu'il y contribue. En tout cas, c'est clairement ce que la grande star de la pop de ces dernières décennies, cette dernière décennie, ceci dit, clame haut et fort. Et quand en plus, on lui doit de l'argent, elle est tellement fâchée, la go, qu'elle finit par en faire un tube. C'est Rihanna, Bitch Better Have My Money.
Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you want it. Balling bigger than LeBron. Bitch give me your money. Who y'all think y'all fronting on? Like blah blah blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga you just bought a shot. Kamikaze if you think that you gon' knock me off the top. Your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I call the shots. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want it. Bitch better have my money.
bitch better have my money.
Bitch better have my money. Donc en langage correct et soutenu et non violent, ça veut dire s'il vous plaît madame, est-ce que vous auriez la gentillesse de me rendre mon argent. Voilà voilà. Et en même temps Riri, tu sais quoi, sois cool, t'as juste vendu depuis 2015 plus de 200 millions de disques. Donc ça va, c'est cool. Enfin voilà, cette histoire d'argent devient plus grave quand il est détourné par nos chefs d'État et dirigeants. Nous assistons de plus en plus à des situations insupportables où les présidents insultent l'intelligence du peuple en forçant, comme on dit à Paris, et restant parfois un peu trop longtemps au pouvoir. Alors à ces messieurs, je leur dirai exactement ce que Tiken et Awadi vont vous dire tout de suite, et nous on se retrouve dans quelques minutes. La famille, écoute ça, c'est quitte le pouvoir.
Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des amis si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements depuis 40 ans. Tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là.
Well, Tiken gentlemen, man call nobody. I was happening in that time. Give me a study card, man. Well, no man, écoute. On a marre, on a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans ce reste, on dit qu'on a marre, on a pas un patin, on dit qu'on a marre, tout le pop, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes monumentales, vis dans le mal, tu me fais dans le mal, il est donc évident que tu bêches dans le mental, pas d'évolution, man, libère le peuple, fais le bide, fais le bien, man, libère le peuple, et pense à le même, man, libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, reste tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir pour le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le moral de plus, c'est le moral de trop. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans ce reste, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, sort dans le calme, t'es qu'à la vallée, sors dans le calme.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Laisse tomber l'histoire. Le président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi, monsieur le président. Quittez le pouvoir, monsieur le président. Si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir.
Ne partez pas, messieurs et dames, hein. Nous revenons après les informations. Hein.
Atomique Jingles. Le kit d'habillage pré-produit pour votre radio. Près de 80 effets sound design pour illustrer vos voix. Radio pour vos promos et speak antennes. 25 modules pré-produits pour des identifiants dynamiques. Plus de musique. Plus de... Insérez juste le nom de votre radio pour obtenir ceci. Plus de
5. Des bases rythmées.
Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et pour chaque mix, vous obtenez la version son radio ou son studio. La version bête seule, la version voix seule.
Plus de musique.
Non-stop. Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et les éléments qui composent le mix. 25 modules variés autour des thèmes récurrents de l'habillage radio.
Plus de musique.
Maintenant.
Insérez simplement le nom de votre radio et votre identifiant est prêt à diffuser.
Dans un instant, vous écouterez ça.
Consultez le descriptif PDF et téléchargez le pack d'évaluation pour découvrir les 25 identifiants.
Les tubes reviennent vite.
Atomic Jingles, un pack de 174 éléments d'habillage pré-produits, incluant base à personnaliser, voix, effets et bed. Et en bonus, 10 beds radio pour vos promos et speak antennes, déclinés en 40 versions. Atomic Jingles.
Super.